Radio Kapi.
Le journal présenté par Noël Aluzitu Kabambi.
Le nouveau président de l'Assemblée nationale veut, au cours de son mandat, lutter contre les inégalités sociales et contre l'enrichissement illicite. Ces promesses de Vital Kamerhe ont été faites à l'occasion de la première réunion du bureau de l'Assemblée nationale tenue samedi à Kinshasa. Le président du Synode des Églises du Christ au Congo appelle les habitants de l'Ituri à être tous des artisans de paix pour soutenir les efforts du gouvernement. Appel lancé hier au cours du culte de paix organisé à Bunia. De leur côté, les représentants des différentes organisations présentes à ce culte ont promis de sensibiliser leurs membres pour le retour définitif de la paix en Ituri. Mathieu Yela est notre invité. Le facilitateur national de l'ONG Initiative Interreligieuse pour les forêts tropicales va parler du symposium scientifique sur les forêts vivantes et les peuples émergents. Activité organisée en marge de la commémoration de la Journée internationale de la biodiversité le 22 mai. Bonjour à tous. Réhabiliter l'image de l'Assemblée nationale, restaurer le député dans son honneur et sa dignité et faire de l'amélioration des conditions de vie de la population la priorité des élus. Ce sont là les objectifs que s'est fixé Vital Kamerhe à la tête de l'Assemblée nationale. Le nouveau président de la Chambre basse du Parlement a réitéré au cours de la première réunion du bureau tenue samedi sa détermination à lutter contre les inégalités par le vote des lois justes qui garantissent la redistribution équitable des droits et devoirs à tous les Congolais et un contrôle rigoureux de la gouvernance afin de barrer la route à l'enrichissement illicite. Ce que salue la majorité des députés, dont Chekin Malanji, élu de Lubumbashi sur la liste de A24. Il compte sur l'expérience de Vital Kamerhe pour conduire avec fermeté et responsabilité le bateau de la démocratie. Michel Kifindangoy.
L'image du député national aujourd'hui est ternie par le 21 à 33 000 dollars qu'il toucherait chaque mois pour passer du temps à dormir dans l'hémicycle après être arrivé à la plénière avec plus de 4 heures de retard pour examiner des lois qui n'ont rien à voir avec les attentes des Congolais, affirme la société civile parlementaire. Le nouveau président de l'Assemblée nationale se donne donc le défi de rencontrer les attentes de la population. Vital Kamerhe.
Le vecteur pour canaliser les attentes de la population. Et l'Assemblée nationale, dans ses missions, est là. D'abord, pour s'assurer si dans son programme d'investiture, Madame la Première Ministre a tenu compte de ces désirs. Est-ce que toutes les contrées du pays, toutes les provinces, toutes les questions, en commençant par la question sécuritaire, du quotidien, du social du Congolais, des infrastructures de base. Et pour toutes ces raisons, nous devons restituer à la Chambre basse ses lettres de noblesse. Au député national, sa dignité et son honneur. Croyez-moi, ça sera fait.
Satisfait de l'arrivée de Vital Kamerhe au perchoir de l'Assemblée nationale, le député Chekin Malanji invite le bureau installé à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement qui sera mis en place sous peu pour le bien des Congolais.
Les défis sécuritaires, les difficultés liées au transport ainsi que l'insalubrité sont les préoccupations sociales urgentes à réglementer dans la ville de Kinshasa. Ce plaidoyer a été fait auprès des nouvelles autorités urbaines de la capitale samedi par les mouvements citoyens et les organisations de la société civile réunies en Assemblée provinciale citoyenne de Kinshasa. Bertin Kanyinda, président de cette structure, recommande à l'actuel gouverneur de Kinshasa de prendre des mesures contraignantes pour remédier à cette situation et bien d'autres défis majeurs à relever. Ces propos ont été recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
C'est un casse-tête aujourd'hui pour les Kinois. On ne sait pas qui à Kinshasa est en train de diriger les secteurs de transport. Parce qu'on voit les chauffeurs en train de faire le demi-terrain, de donner des tarifications qui ne concordent pas aux bourses des citoyens. On ne sait pas maintenant à quel sens se vouer. C'est comme ça qu'on s'est dit, nous devons faire un plaidoyer pour qu'on puisse réglementer toutes ces choses-là. Il y a des embouteillages monstres. C'est vraiment un casse-tête pour les Kinois. Et l'insécurité, vous le savez, aujourd'hui avec que l'opération Panthère Noire, ça y est un peu d'accalmie, mais ça commence à renouveler. Ça veut dire qu'une fois Kinshasa, la police baisse les bras, ça recommence et maintenant ça prend d'autres ampleurs. C'est comme ça que nous voulons également attirer l'attention de l'autorité urbaine qu'il puisse continuer avec sa police, qu'il puisse continuer à traquer tous ces malfrats-là. Et le problème de l'insalubrité, ça c'est vraiment au quotidien pour les Quinois. Il n'y a pas de dépotoir, il n'y a pas même de dépotoir de transit. Les gens jettent les immondices dans les caniveaux. On doit réglementer ce secteur en mettant de mesures contraignantes pour que la population cesse.
Il faut signaler que cette rencontre s'est tenue un jour après l'installation des assemblées provinciales citoyennes de la RDC, une initiative du CEPAS, des mouvements citoyens et des organisations de la société civile en vue de canaliser les désirs des Congolais vers les institutions étatiques, notamment le Parlement. Au Kasaï oriental, 43 conseillers communaux et 5 chefs de bureau des communes de la ville de Mbujimayi ont été réunis vendredi pour une formation sur la problématique de la première expérience des conseillers communaux à RDC. Ces travaux d'un jour ont été organisés par le Centre d'études et des formations populaires pour les droits de l'homme, CEFOP-DH, dans le cadre de la mise en œuvre de son projet intitulé « Action des citoyens pour la transparence des élections en 2023 ». D'après l'assistant juridique des FEPOP, le but de cette formation est de contribuer au renforcement des capacités des conseillers communaux et d'améliorer leurs connaissances sur les attributions étant donné qu'ils sont à leur première expérience. L'élection sénatoriale a bel et bien eu lieu hier dimanche à Goma, au Nord Kivu. 4 candidats ont été élus sénateurs par les députés provinciaux. Prochaine étape, la publication par la CENI au niveau de Kinshasa des résultats provisoires. Bernardine Diambo pour les détails.
Parmi les 34 candidats, seuls 4 ont obtenu les suffrages nécessaires pour siéger à la Chambre haute du Parlement. Après dépouillement des bulletins de vote par la CENI, sur 48 députés provinciaux, 47 ont voté. Ceux qui ont été élus sont Mumbere Machozi Papi, candidat indépendant avec 9 voix, Kasereka Katokolio, Jean-Marie du regroupement politique à Bar B50, élu avec 8 voix, Shabani Luko Bihango, Jackman de l'IDPS Tshisekedi, élu avec 8 voix, et Célestin Vunabandi Kanyamihigo, candidat indépendant élu avec 6 voix. Les autres candidats se sont partagés les restes des voix. Il faut noter que les élections des sénateurs interviennent dans un contexte particulier marqué par l'état de siège décrété dans le Nord Kivu à cause de la crise sécuritaire qui secoue la province. Les nouveaux sénateurs auront pour mission de porter la voix des populations du Nord Kivu, longtemps meurtries par les guerres à répétition. Les élus attendent la publication des résultats provisoires de ces scrutins par la CENI au niveau de Kinshasa. Il faut noter également que cette élection des sénateurs s'est passée dans les calme et dans la transparence sans aucun incident. Goma, Bernardine Diambou, Radio Kapi.
Les élections du gouverneur, vice-gouverneur et sénateur de Mayi Ndombe ont été organisées aussi hier dimanche à Inongo, chef-lieu de la province. À l'issue de ces scrutins qui se sont déroulés dans le calme, les candidats gouverneurs Aimé Pascal Mongolo-Konda ainsi que Lebon Kosokevani ont obtenu chacun 9 voix, ce qui va amener la CENI à organiser le deuxième tour de cette élection dans 72 heures. Quant aux sénateurs, les 4 candidats qui arrivent en tête sont connus. Irène Boma.
À en croire les sources proches de l'Assemblée provinciale du Mayi Ndombe, tous les 18 députés provinciaux qui composent cet organe délibérant ont été présents dans la salle de plénière et ont pris part au vote. Après dépouillement devant les témoins, il s'est avéré que parmi les 5 candidats gouverneurs, 2 ont chacun obtenu 9 voix. Il s'agit de Lebon Kosokevani du territoire de Koutou et Aimé Pascal Mongolo-Konda du territoire du Nongo, tous 2 indépendants. S'agissant de l'élection des sénateurs, sachez qu'au moins 20 candidats se sont présentés dans la province du Mayi Ndombe. Sont donc élus sénateurs d'après les chiffres résultant du dépouillement, Aimé Pascal Mongolo-Konda qui a obtenu 4 voix, Anissé Babanga 4 voix également, Herman Moutima Sakrini 3 voix et enfin Adonis Ngovuli Ngambani qui a aussi obtenu 3 voix. Les mêmes sources renseignent que le deuxième tour des élections du gouverneur et vice-gouverneur est prévu pour ce mercredi 29 mai 2024. Irène Boma, Bandundouville, Radio Okapi.
Tous les fils et filles de la province de l'Ituri doivent être des artisans de paix pour soutenir les efforts du gouvernement. C'est l'appel lancé par le président du Synode des Églises du Christ au Congo à la population pendant le culte hier de paix organisé à Bunia. À cette occasion, les différentes organisations représentées à cette rencontre de prière se sont engagées à sensibiliser leurs membres pour la cessation définitive des violences dans cette province. Isaac Eremo.
Les cantiques, les sermons et les allocutions étaient centrés sur la paix pour sensibiliser les participants et toute la population à s'investir activement dans la promotion de la cohabitation pacifique et les dialogues pour la résolution des conflits. Selon le président de l'ECC Ituri, la population est lassée de la guerre qui a déjà fait plusieurs victimes et des dégâts matériels importants. Tout le monde doit s'impliquer pour appuyer les efforts et les initiatives du gouvernement en vue de mettre fin au cycle infernal des violences. Monseigneur Théodore Katembo.
Que chacun rentre comme artisan de la paix, qu'on puisse continuer à lancer le message par. Nous voulons que l'Église travaille avec l'État dans ce sens-là, puisque personne n'est gagnant dans cette élite. C'est pour cela que nous disons que nous devons baisser les armes, nous devons rendre les armes pour avoir une prospérité dans notre province.
La province de l'Ituri, qui a d'énormes richesses, est devenue la risée d'autres provinces de la RDC et des pays voisins, a déclaré la Fédération des entreprises du Congo FEC. Son président appelle à un éveil de conscience de toutes les communautés et structures. Les participants intercédaient pour les autorités à tous les échelons et même les fils égarés à déposer les armes. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Retour au Nord Kivu. À Beni, une centaine de jeunes filles et garçons ont été sensibilisés hier à l'hygiène menstruelle. C'était au cours d'une séance organisée par les ONG locales UFEDOC, Union des femmes domestiques du Congo et Agir RDC, en prélude de la Journée internationale de l'hygiène menstruelle célébrée le 28 mai. L'objectif de cette activité était d'inciter la jeunesse à briser le silence autour de la menstruation perçue comme un tabou dans la communauté. Reportage Grévis Salomon.
Les participants sont des jeunes qui pratiquent du sport chaque dimanche matin dans les rues et avenues de Beni. Gertrude Kahambou, l'une des organisatrices, explique l'essence de cette sensibilisation.
Montrer à toutes les jeunes filles et jeunes garçons que les mots menstruels, ce n'est pas un tabou, c'est un mot comme les autres, que ça ne puisse pas être un sujet de moquerie. Il y a certaines filles jusque-là ne savent pas faire leur hygiène. Quand on est dans notre période, ça demande beaucoup de propriétés.
Cette sensibilisation a permis aux participants d'acquérir quelques notions de base, comme le confirme Riziki Vihamba.
Il y a eu de nouvelles choses, de nouvelles techniques que je viens d'apprendre. On nous a dit qu'on peut avoir des infections quand on passe beaucoup de temps sans s'y changer. On peut être atteinte par certaines maladies si on ne respecte pas l'hygiène menstruelle.
Eloge Kiringue appelle pour sa part les parents à avoir des discussions avec leurs enfants filles de les bas âge autour de cette question.
Des fois, les parents pensent que c'est un tabou et pourtant c'est une question de prévenir aux enfants. Les parents peuvent prendre le temps de montrer comment ça s'est fait pour que ça ne soit pas compliqué parce que c'est très stressant vraiment.
Quelques kits hygiéniques ont été distribués aux participants à la fin de cette sensibilisation. Beni, Grévis Salomon, Radio Kapi.
Dans la province du Maniema, le programme d'appui au développement rural inclusif et résilient PADRIR appuie 18 stations dans le village, dans la ville de Kindu, ainsi que dans les territoires de Kailo et Pangi. Ces dernières ont reçu de PADRIR des semences de claria et des tilapia. Trois mois après, une mission de suivi a été organisée ce week-end par PADRIR et le Service national de développement de la pêche et de l'élevage SENADEPA pour évaluer l'évolution de ces alevins. Florence Kizalunga.
Pour les stations dans le village de Kindu, les clairias et tilapia récits des PADRIR évoluent très bien. Cependant, les bénéficiaires demandent encore plus d'assistance.
Nous avons reçu des PADRIR les alevins et que les alevins là est considéré pour nous comme un cadeau pour que nous puissions installer notre projet durable. C'est pourquoi j'envisage pour qu'on puisse pérenniser, nous serons dotés de matériel et que nous serons aussi dotés d'un protocole d'accord pour qu'on puisse démarrer avec les activités.
En tout cas, nous avons bel et bien beaucoup de difficultés, notamment les aliments dont nous donnons, c'est un peu insuffisant. Nous sommes obligés de nous démener avec des aliments locaux pour associer à nos alevins.
PADRIR les garanties. Modeste Maléchène, conseiller en charge des programmations, suivi et évaluation.
Oui, c'est vrai, ils ont raison. Nous avons prévu de construire ici à Kindu une écloserie, ce qui va résoudre deux problèmes. On va résoudre le problème d'accès aux alevins et on va résoudre le problème d'aliments, parce que c'est une écloserie qui est associée à une provenderie. L'autre acquis, c'est que nous espérons l'année prochaine appuyer encore d'autres pisciculteurs, non seulement en matériel, parce que les matériels matériels seuls ne suffisent pas, mais ils seront aussi appuyés en formation pour accroître leurs connaissances.
Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Au Mali, des opposants en exil à la junte forment un gouvernement pour une transition civile. Ils dénoncent le musellement de la classe politique par une junte malienne illégitime. Dans un communiqué publié samedi depuis Genève, les signataires affirment que ce gouvernement créé par les opposants à la junte militaire à l'extérieur est dirigé par un magistrat malien de renom, Mohamed Cherif Kone. Ancien premier avocat général près la Cour suprême du Mali, il a été radié de l'ordre des magistrats pour ses prises de position contre les militaires au pouvoir. Il porte désormais le titre de premier ministre du gouvernement parallèle qui compte 7 membres, dont 2 femmes. Il cumule également la défense et la protection de la population selon le communiqué. Ce gouvernement civil de transition est le seul légitime au Mali, dit ce texte. Ce gouvernement comprend un vice-ministre et d'autres titulaires de postes dont les affaires étrangères, l'intérieur et la justice, le développement social, les finances et l'économie.
L'invité.
Notre invité s'appelle Mathieu Yela, facilitateur national de l'ONG Initiative Interreligieuse pour les Forêts Tropicales. En marge de la commémoration de la Journée internationale de la biodiversité célébrée le 22 mai, diverses manifestations ont été organisées, parmi lesquelles un symposium scientifique avec comme thème « Forêts vivantes, peuples émergents ». C'est pour échanger autour des efforts consentis pour la préservation de la biodiversité. Mathieu Yela s'entretient avec Billy Yvan Lutumba.
Mathieu Yela, bonjour.
Bonjour, c'est le journaliste Billy.
À marge de la célébration de la Journée internationale de la biodiversité, que peut-on dire de l'implication des Congolais en général dans la préservation de cette biodiversité dans le bassin du Congo?
La situation, elle est mitigée. Dans certains endroits, on peut voir qu'il y a la protection de la biodiversité. Mais dans d'autres, c'est la destruction complète de la biodiversité. On peut lier ça à quelques facteurs, notamment la précarité de la vie des gens qui sont dans les zones riches en biodiversité. Les gens recourent à la destruction de la forêt, par exemple, qui est l'habitat de cette méga biodiversité. On abat les forêts, c'est vraiment la déforestation dans plusieurs coins. Et ça fait que la biodiversité de la forêt s'amenuise, il y a cette décadence de la biodiversité. Alors, on peut dire que l'avenir de la biodiversité de la RDC est en danger, aussi bien que l'avenir des peuples qui en dépendent.
Monsieur Mathieu Yela, quelles sont brièvement les approches que vous proposez aux dirigeants congolais afin de contraindre les citoyens à éviter les pratiques qui ont une incidence nocive sur la biodiversité, notamment la manipulation des produits plastiques?
La manipulation de produits plastiques, ça c'est une catastrophe. Si on prend la situation des grandes villes, plus que toute autre grande ville, la ville de Kinshasa, où les plastiques sont partout, où les rivières sont couvertes complètement par les déchets plastiques. Et si on regarde le cours d'eau, notamment de la ville de Kinshasa, la biodiversité halieutique en souffre. Ce que nous demandons au gouvernement, c'est de recourir aux canaux de communication les plus influents, notamment les églises, notamment les artistes, notamment le secteur privé, parce que le secteur privé, c'est un secteur qui peut apporter des solutions à ces problèmes-là de pollution, considérant que les plastiques sont fabriqués et mis à la disposition de la population à travers les produits de consommation qui sont fabriqués par le secteur privé. Donc il serait mieux qu'on puisse avoir une gestion de déchets responsable, le recyclage, la mentalité également des populations n'est pas matraquée par la sensibilisation. Il faudrait un changement de mentalité qui passe par une éducation dans les programmes scolaires, notamment dans les programmes universitaires, l'éducation au civisme environnemental.
Vous avez organisé un symposium scientifique sur la préservation de la biodiversité après avoir réuni des religieux de tous bords sur la même question. Quelles sont les principales recommandations issues de ce symposium pouvant se muer en actions concrètes à mener?
On voulait montrer que la foi et la science, c'est complète. Il y a des outils qui existent scientifiquement. Il y a également beaucoup de choses qui se font. Il y a des avancées scientifiques, mais qui, au niveau de notre pays, ne sont pas soit connues, soit appliquées. Le symposium a fait une recommandation première, c'est-à-dire que l'État congolais soit doté des satellites. parce que les satellites est un outil qui donne des données fiables. La deuxième recommandation, que ce soit au niveau des universités qui offrent les enseignements théologiques, de droit, l'économie, médecine, tout ça, il faudrait que l'on puisse se référer à utiliser les données scientifiques qui viennent des satellites pour étayer la science de la santé, la science au niveau de la théologie, la science au niveau économique, tout ça parce que aujourd'hui, ce sont ces données-là qui permettent aux États d'avancer et de se positionner sur l'échiquier international. En plus de ça, la science montre qu'il y a 4 provinces, notamment Chopo, Chuapa, Équateur, Mongala, qui sont le véritable poumon de la RDC. Maïndombe aussi. Alors, il y avait une suggestion de maintenir les moratoires pour l'utilisation de ces forêts en recourant à d'autres usages, par exemple l'usage des savanes pour produire. Donc la technologie existe qui peut permettre d'utiliser, de recourir à des zones hors forêt pour maintenir ces zones-là, pas intactes, mais au moins loin de la déforestation.
Mathieu Yella, nous vous disons merci pour votre disponibilité.
Merci beaucoup.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez le retrouver sur le site internet de Radio Okapi, www.radiookapi.net.